VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 12 mai 2017, Morgane Guerriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, nouvelle grogne de militaires à Boaké et Abidjan en Côte d'Ivoire au lendemain de l'annonce de la suspension de revendications liées à leurs primes.
Depuis quelques jours, on avait des murmures, des rumeurs concernant des revendications portant sur ces sommes restantes par les militaires.
Nouvelle tragédie sur les routes. Un accident au Burkina Faso a fait au moins 18 morts et plusieurs blessés. 3 cas d'Ebola détectés dans le nord-est de la République démocratique du Congo. La polémique continue aux États-Unis après le limogeage du directeur du FBI, James Comey, par le président Donald Trump. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. La Côte d'Ivoire a couteau tiré. Des soldats lourdement armés ont repris les mutineries aujourd'hui en tirant en l'air. À Abidjan, la capitale ivoirienne, ils se sont positionnés autour de l'état-major dans le quartier du Plateau, bloquant les routes autour du camp. Un nombre important de forces loyalistes ont été déployées. Les mutins réagissaient ainsi au rejet de leurs revendications liées à des primes. Et les troupes de ce matin sont parties de Boaké, dans le centre du pays, nous dit notre correspondante Narita Namasté.
Cet après-midi, il y avait un retour calme dans les différentes casernes, la caserne d'Akodo, le plus grand camp d'Abidjan et le camp d'Alimé. Deux heures plus tard, les pions ont repris, on ne sait pas trop pourquoi. Et nous avons constaté un mouvement de la sécurité présidentielle et de la garde républicaine boucler les différents périmètres de ces camps-là au niveau du plateau. Et les mutins viennent toujours les checkpoints qu'ils avaient mis depuis ce matin, mais les véhicules et les militaires de la garde républicaine sont autour du camp d'Alimé. Selon nos informations, le chef d'état-major et son agent se trouvent encore à l'intérieur du camp d'Alimé. Au niveau d'Akodo, les tirs ont cessé. Et si on fait ça, on n'entend plus les tirs sporadiques. Ils n'avaient pas barré la route qui déchirait. Le boulevard qui passe juste devant le nouveau camp d'Akodo n'avait pas été barré. Parce que tout s'est passé à l'intérieur.
Qu'en est-il de Boaké, par exemple?
Ok, à Boaké, nous avons appris qu'il y a des discussions avec le colonel de 3e bataillon de Boaké. Il y a des discussions en cours. Mais pas plus, les jeunes sont toujours dans le camp avec des fusils. Et la fin de voir ce que ça va donner.
Attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun. Un civil membre d'un comité de vigilance a été tué et 6 autres ont été blessés aujourd'hui dans une double attaque près de la frontière nigériane. 2 kamikazes venus du Nigeria se sont fait exploser tout ce matin à Limani, indique l'AFP citant une source anonyme. Les assaillants seraient également morts. Limani est la cible d'attaques récurrentes attribuées à Boko Haram. Accident grave au Burkina Faso, au moins 18 personnes ont été tuées tôt ce matin. Les détails avec Bagassi Koura.
L'accident a eu lieu vers 6 heures sur la route menant de la capitale Ouagadougou à Pau, ville située vers la frontière du Ghana au sud du pays. D'après les autorités, un minibus est entré en collision avec un véhicule de transport de marchandises, faisant aussi 4 blessés. On ne connaît pas l'origine de l'accident, mais les routes du Burkina Faso sont la plupart en mauvais état. Les véhicules de transport mal entretenus roulant fréquemment en excès de vitesse. L'année dernière, presque à la même période, un accident similaire avait tué 24 personnes et fait une trentaine de blessés sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso à quelques kilomètres de Boromo à l'ouest du pays. Face à la multiplication des accidents, le ministère des Transports avait pris des mesures draconiennes imposant aux bus de plomber leurs boîtiers de vitesse.
La Croix-Rouge reprend ses activités à Kidal, dans le nord du Mali. C'est ce qu'annonce l'organisation qui avait interrompu ses opérations dans le fief de l'ex-rébellion pendant plus de 2 semaines, pour raison de sécurité, à la suite d'un cambriolage notamment. La Croix-Rouge dit avoir obtenu les garanties nécessaires pour le personnel, et si bien auprès des autorités et des leaders de la région. Une épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'est déclarée dans le nord-est de la République démocratique du Congo, où elle a fait 3 morts depuis le 22 avril. C'est ce qu'a annoncé l'OMS dans un communiqué. Oli Ilunga Kalenga, ministre congolais de la Santé publique, confirme l'épidémie.
Notre pays doit donc faire face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale. La République démocratique du Congo étant à sa 8e épidémie de cette nature, celle-ci ne devrait pas ébranler nos populations. Car, en effet, notre pays regorge des ressources humaines bien formées en cette matière et qui ont d'ailleurs servi à contenir des épidémies similaires sous d'autres cieux. Aussi, nous exhortons notre population à ne pas céder à la panique. Le ministère de la Santé publique vient de prendre toutes les dispositions utiles pour riposter promptement et efficacement à cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola.
Voilà, c'était Oli Ilunga Kalenga, ministre congolais de la Santé publique. RDC toujours, le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit préoccupé par le taux élevé de condamnations à mort dans l'est du pays, dans les procès contre des présumés rebelles ougandais. Depuis 9 mois, la Cour opérationnelle militaire du Nord Kivu tient des procès sur une série de massacres qui ont fait des centaines de morts dans la ville et les environs de Beni depuis octobre 2014 et ont été attribués aux forces démocratiques alliées, ADF, une rébellion musulmane ougandaise. Soudan du Sud, le président Salva Kiir a assuré que la population n'avait pas de raison de s'inquiéter 3 jours après le limogeage du très influent et redouté chef de l'armée, Paul Malong, et que la situation sécuritaire était normale. Pour Salva Kiir, ce remaniement à la tête de l'armée, en pleine guerre civile, est une décision de routine. L'annonce du renvoi de Paul Malong a fait pourtant craindre de possibles affrontements entre troupes fidèles au chef d'état-major débarqué et celle loyale au président Kiir. Remaniement au Soudan également, un nouveau gouvernement dirigé pour la première fois depuis près de 30 ans par un premier ministre, a été formé avec l'objectif ambitieux de régler la crise économique et les multiples conflits avec les rebelles. La formation de ce gouvernement a été annoncée hier soir par Bakri Hassan Saleh, nommé premier ministre par le président Omar el-Béchir, qui garde néanmoins le pouvoir de nommer et limoger les ministres. La fonction de Premier ministre avait été supprimée en 89 après le coup d'État ayant porté au pouvoir M. Béchir. L'opposition, par contre, ne participe pas au nouveau gouvernement. Tunisie, le projet de loi d'amnistie pour des faits de corruption en échange d'un dédommagement menace la justice transitionnelle. Telle est la mise en garde formulée par des ONG en réaction au texte proposé par le président Béji Caïb Essebsi. Il s'agit d'une menace pour la justice transitionnelle puisqu'il accorde une amnistie à des personnes qui sont impliquées dans des crimes économiques et financiers, estime l'organisation Avocats sans frontières. Et Tunisie toujours, le pèlerinage annuel juif de la Griba a débuté dans une ambiance festive aujourd'hui sur l'île tunisienne de Djerba.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Suite des remous ici aux États-Unis, suite au limogeage du patron du FBI par Donald Trump, le président américain lance une menace à peine voilée à l'ex-directeur du FBI, James Comey, à qui il intime de garder le silence. Clairement un gibourg.
Depuis qu'il a congédié brutalement le premier flic des États-Unis, Donald Trump n'a pas calmé le jeu ou même rassuré ses critiques. James Comey ferait bien d'espérer qu'il n'existe pas d'enregistrement de nos conversations avant qu'il ne fasse des révélations à la presse, a-t-il menacé sur son compte Twitter ce matin. Initialement, la raison officielle donnée au limogeage de James Comey était la façon dont il avait géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton en 2016 durant la campagne électorale. Mais le chef de l'État a déclaré à NBC que le limogeage était plus lié à la collusion supposée entre la Russie et certains membres du gouvernement Trump.
Look, he's a showboat, he's a grandstander.
La réalité de ces ingérences ne fait pas de doute. Les six plus hauts responsables du renseignement américain ont réaffirmé hier que la Russie avait bien tenté d'influencer les élections américaines.
Et en Syrie, plus de 1200 civils et insurgés ont été évacués de deux quartiers de Damas, selon l'agence officielle Sana. Le régime se rapproche donc de son objectif d'éradiquer toute présence rebelle dans la capitale. Ces évacuations, entamées il y a trois jours, sont les premières dans la capitale depuis le début du conflit en 2011. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, la Minute Éco.
La Mauritanie fait son retour dans la zone de libre-échange ouest-africaine. Nouakchott vient de paraffer un accord avec la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il porte sur la libéralisation de la circulation des personnes et des biens entre le pays et les 15 États membres du bloc d'ici janvier prochain. L'accord devra être validé en juin à l'occasion du sommet de la CEDEAO. Au Nigeria, le Parlement a finalement approuvé au bout de 5 mois le budget ambitieux du président Mohamedou Buhari de plus de 7 000 milliards de naira, soit 23 milliards de dollars, afin de sortir le pays de la récession par une augmentation fragile de la production pétrolière et par un prêt d'1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale. Le plan veut relancer la croissance, notamment grâce à de grands projets d'infrastructure. Alteo, l'un des plus importants groupes sucriers de Maurice, annonce une performance meilleure que celle escomptée. Ses profits avant impôt augmenté de 55% pour s'établir à près de 585 millions de roupies, soit environ 17 millions de dollars au cours des trois premiers mois de cette année par rapport à la même période l'an dernier grâce à la hausse des prix de vente et à ses opérations en Afrique de l'Est. Les revenus du groupe ont accru de 21% pour atteindre 2,34 milliards de roupies.
Sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Première journée de la phase de poule de Ligue africaine des champions.
Et oui, cinq matchs sont au programme ce vendredi, à commencer par l'Espérance de Tunis qui reçoit les Congolais de l'AS Vita Club de Kinshasa. Et mauvais voyage tunisien pour les Congolais qui viennent d'être battus 3 buts à 1 ce vendredi soir. L'équipe entraînée par Hubert Velut qui va affronter les Mozambicains du Ferroviaro de Beira. Par contre, on va assister dans ce groupe au derby d'Ondourman entre les frères ennemis El Hilal et El Merrer à Khartoum. Un match certainement explosif qui gardera son suspense jusqu'au bout. El Merrer de Diego Garzito, ancien vainqueur de cette compétition, entend garder cette dynamique pour surprendre l'actuel leader du championnat soudanais El Hilal.
Super Sport contre Oroya AC pour démarrer la Coupe de la Confédération.
Composée pour la première fois de 4 poules, soit 16 équipes au total, la phase de groupe de cette compétition débute ce vendredi avec un seul match qui va mettre aux prises les Sud-Africains de Super Sport au Guinéen d'Oroya dans la poule D. Le club de Pretoria est classé 4e de son championnat. Des atouts pour arriver à bout des Guinéens qui, eux, dominent le championnat depuis 3 saisons. Dimanche, ce sera au tour du tenant du titre, le tout-puissant Mazembe, d'affronter les Gabonais du CF Moulana.
Burkina Faso reste maître à l'issue de la troisième étape du Tour du Bénin 2017.
Le Burkinabé Salfo Bikenda a remporté la troisième étape du Tour du Bénin, mais son compatriote Abdoulaziz Nikema est lui toujours en jaune. Le Burkina Faso qui reste donc maître de cette compétition. Salfo Bikenda a devancé au sprint l'Ivoirien Bassirou Konté en 2h39. Quatrième étape demain, un critérium de 80 km autour de Porto Novo.
San Antonio en finale de la Conférence Ouest en basket NBA.
Et oui, San Antonio, pourtant privé de son meilleur marqueur, Kawhi Leonard, s'est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest en écrasant Houston 114-75 dans sa salle. Les Spurs qui affronteront dimanche en finale de conférence Golden State pour le titre 2017 de cette Conférence Ouest. Golden State, champion 2015 et vice-champion 2016, a atteint la finale de la conférence en 8 manches sans une seule défaite.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerrier, en votre compagnie, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, des soldats sont à nouveau descendus dans les rues d'Abidjan et de Boaké. Ils ont tiré des coups de feu en l'air pour marquer leur mécontentement après l'annonce par le gouvernement la veille de la fin des mutineries qui touchent la Côte d'Ivoire depuis le début de l'année. Blanche Sanou a joint par téléphone Julien Gauze, analyste politique ivoirien. Il nous donne sa lecture de ces événements.
Pour dire la vérité, personne n'est en mesure de dire avec exactitude de quoi il s'agit hein, au stade actuel. On sait seulement qu'il y a eu un premier mouvement de protestation au sein de l'armée en janvier, qui s'est conclu par un accord qui n'a pas été rendu public, mais un accord signé avec le gouvernement. Un certain montant devrait être payé par personne et le gouvernement aurait payé une partie seulement de cet argent comme convenu dans les accords pour secret. Le papier récent devrait suivre un règlement échelonné par le gouvernement à l'État, ce qui semble-t-il n'ont pas été respecté. Et donc, depuis quelques jours, on avait des murmures, des rumeurs concernant des revendications portant sur ces sommes restantes par les militants. Et voici deux jours, le gouvernement a rendu public un communiqué nous informant publiquement, officiellement, que les militants s'étaient engagés à ne pas faire de revendications violentes par rapport donc aux questions financières et que donc des discussions sans doute se poursuivraient. Le gouvernement a aussi annoncé des mesures d'amélioration des conditions de vie dans les casernes.
Est-ce uniquement la rébellion ou l'armée est-elle impliquée?
Toutes les armées ont été réintégrées avec des commandements militaires. Lorsqu'on parle de chef d'état-major, le chef d'état-major commande et soutient les militaires issus de l'ancienne rébellion, que les militaires issus de la composante RRD, c'est entre nous. On ne fait pas des symboles pour dire voici les rebelles, voici les gens rebelles. Même s'il est vrai qu'à partir d'un certain nombre d'éléments, on peut faire la distinction comme ça, mais dans le fond, il y a l'armée ivoirienne. Elle est une, et voilà, elle n'est pas homogène, mais elle est au moins unique, sans distinction entre les éléments.
À votre avis, quelles sont les solutions possibles pour une sortie de crise?
D'abord, éteindre le feu, c'est-à-dire donc comme calmer la contestation pour que les choses rentrent dans l'ordre. La deuxième proposition que je pense qu'on doit formuler, c'est de rendre public l'accord qui est signé, de sorte que toute la nation soit plus à témoin. La troisième solution, bien sûr, c'est d'exécuter scrupuleusement les engagements issus de cet accord.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Cap sur le Burundi. Trois jours de visite du vice-président chinois Li Yunchao dans le pays. Une première dans les relations sino-burundaises. L'économie et les investissements chinois étaient au centre des discussions. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
Nous avons de nombreux projets de développement avec la Chine qui continuent. La Chine a accepté de soutenir le Burundi. Parmi ces projets, nous allons prendre des dettes que nous allons payer plus tard. Mais d'autres projets seront des aides du gouvernement chinois. Mais un pays ne se développe pas avec seulement des aides. Il faut que le développement suive. Quand le Burundi a des difficultés, la Chine nous soutient et vice-versa. Dans notre projet de développement, la Chine a des réalisations à faire.
Oh. Conformément au consensus dégagé par nos deux chefs d'État, nous avons décidé d'élargir encore davantage la coopération amicale qui existe entre la Chine et le Burundi. Nous allons continuer à fournir des aides sans contrepartie, des aides budgétaires et des aides alimentaires au Burundi. Nous allons augmenter davantage le nombre de bourses gouvernementales proposées aux étudiants burundais. Nous allons offrir également davantage de stages de formation aux Burundais. Par ailleurs, nous allons également multiplier la formation technique et professionnelle dans votre pays. Nous allons également vous appuyer dans des projets tels que Centrale Hydraulique et d'autres projets de développement. Avant tout, une coopération gagnant-gagnant et mutuellement avantageuse.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Près de deux ans après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, son application pose toujours problème. La situation marquée par la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord et le centre du pays s'accompagne d'une détérioration des droits de l'homme. Solange Niamoulissa a joint Florent Gel, directeur Afrique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, pour un état des lieux.
La situation au Mali est marquée par d'abord une insécurité grandissante qui n'a jamais atteint un tel niveau puisque l'année 2016 a marqué un doublement des actions terroristes, des attaques à l'encontre des populations civiles, mais aussi des forces des Nations Unies et des groupes armés entre eux. Depuis le début de l'année 2017, on compte déjà 150 morts qui sont principalement des groupes armés terroristes. Donc on sent une grande tension qui monte et d'ailleurs la mission des Nations Unies, la MINUSMA, est aujourd'hui la mission la plus dangereuse au monde, puisqu'en 2016, pas moins de 90 casques bleus ont déjà été tués. Tout ça se fait également sur fond d'un accord de paix, l'accord d'Alger, qui a peu évolué et donc qui contribue à une augmentation de la violence, puisque les solutions de la paix ne sont pas encore suffisamment opérationnelles pour produire des effets.
L'insécurité au Mali, quel enjeu pour les pays limitrophes ?
Là, c'est un enjeu majeur, puisque évidemment l'insécurité aujourd'hui a tendance à se propager aux pays voisins, je pense au Burkina, évidemment au Niger où il y a pas mal d'activisme. Il y a aussi des groupes armés qui se constituent et qui rejoignent souvent des groupes armés terroristes tels ACMI ou le nouveau groupe formé par Iyad Al-Ghali. Donc on voit évidemment des incidents se multiplier dans le nord du Burkina, à la frontière avec le Niger. Et cette instabilité grandissante au Mali constitue un facteur d'instabilité dans les autres pays de la sous-région.
Selon vous, que devrait faire d'une part l'État malien et d'autre part la communauté internationale pour résoudre la question sécuritaire dans le nord et centre du Mali et pourquoi pas dans les régions limitrophes ?
L'État malien devrait prendre d'abord un certain nombre d'actions qui, pour nous, sont de deux ordres. D'abord, faire extrêmement attention au comportement de l'armée malienne quand elle intervient auprès des populations locales, en particulier au centre et au nord du pays, pour faire en sorte que les opérations de lutte contre le terrorisme ne violent pas trop les droits humains et fassent en sorte que la population, du coup, se retourne contre l'armée malienne. L'objectif des opérations antiterroristes devrait être de conquérir le cœur et les esprits de ces populations et non pas les braquer contre eux, ce qui arrive malheureusement encore trop souvent. La deuxième action, c'est poursuivre une lutte contre l'impunité beaucoup plus résolue que ce qu'elle ne mène aujourd'hui. On a vu qu'il y avait le procès d'Aya Sanogo qui avait commencé, donc ça c'est un point extrêmement positif, mais les procès qui concernent le nord du pays, les crimes qui ont été commis, en particulier les crimes sexuels contre les populations civiles, ces procédures judiciaires n'avancent pas. Il faudrait pouvoir organiser des procès de ces auteurs des crimes les plus graves qui ont été commis pour que la population voit que justice pourra être rendue et ceux qui ont commis des exactions, eh bien, il va falloir qu'ils rendent des comptes. La communauté internationale, de son côté, va devoir renouveler le mandat de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, dans quelques jours, quelques semaines.
Voilà, c'était Florent Gel, directeur Afrique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le système judiciaire en Gambie, longtemps accusé de servilité envers Yahya Jammeh, fait face à une forte pression de victimes de son régime, réclamant justice après deux décennies de torture, meurtres et disparitions forcées. Salwa Jafari.
Elles ont été réduites au silence pendant 22 ans, emprisonnées, torturées, certains portés disparus. Les victimes de Yahya Jammeh sont nombreuses. Maintenant que le régime est tombé, elles peuvent aujourd'hui demander que justice soit faite. Youssoufa a perdu l'usage de ses deux jambes quand une balle perdue l'a touché lors d'une manifestation estudiantine il y a 17 ans. 14 de ses camarades ont trouvé la mort ce jour-là.
Je veux que le nouveau gouvernement subventionne mon traitement. Je n'ai pas terminé mon traitement, mais je veux d'abord recouvrer ma santé, puis la justice.
Depuis la chute de Jammeh, plusieurs enquêtes sur les crimes de son régime ont été ouvertes et certains membres notoires des services de sécurité ont été mis sous les verrous. Mais pour un jeune gouvernement à court d'argent, cette bataille judiciaire est difficile. Selon Aboubakar Tambadou, ministre de la Justice, l'ensemble du système judiciaire doit être remis en question.
À ce stade, nous voulons nous concentrer sur la reconstruction d'un système de justice qui assurera non seulement des poursuites réussies, mais en même temps garantira des droits équitables pour les plaignants.
En mars dernier, Malé, un jeune Gambien, a dû identifier le corps meurtri de son frère. Ce dernier a été tué après avoir été accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'État en 2014.
Je voudrais savoir comment mon frère a été tué, s'il avait été abattu ou s'il avait été battu à mort. Mais la question demeure telle qu'elle était, sans réponse, et c'est quelque chose qui me dérange. Si la justice tarde, la douleur, elle, est toujours là.
Pour beaucoup de Gambiens, la page sombre des années Jammeh n'est pas encore tournée. Mais le pays avance. Il y a 5 mois encore, des appels à la justice comme cela étaient encore tabous.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Loumani, Souleymane Tarawale à la console, présentation Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.